totalement achevé.
L'ensemble des équipes de Flamanville aujourd'hui sont bien alignées sur l'objectif d'un chargement au deuxième trimestre 2023 et une production des premiers mégawatts sur le réseau avant la fin de l'année 2023. Donc nous sommes tous mobilisés sur cet objectif-là. Donc moi j'y crois.
Le calendrier s'annonce très tendu, d'autant qu'une partie du combustible acheminé à Flamanville va finalement devoir être remplacée. Une mesure décidée après les fuites radioactives sur les barres d'uranium observées l'an dernier à Taishan, en Chine. Reste enfin un sujet sensible qui, depuis 2018, empoisonne le chantier EPR, celui des soudures non conformes. Un chantier dans le chantier qui mobilise à lui seul 800 personnes. Les défis pour cette EPR restent nombreux car même si les soudures sont terminées à temps, il restera un problème de taille, celui du couvercle de la cuve du réacteur. Il avait été jugé défectueux et devra être remplacé en 2024.
Mars 2024.
Bonjour Roland Lescure.
Bonjour, bonjour à tous les deux.
Encore un retard pour l'EPR, est-ce que vous êtes inquiet ?
Ça fait 12 ans qu'on l'attend. J'allais dire, on n'est pas à deux semaines près. Ce qui a été annoncé hier, hein, c'est que d'abord...
Ah oui, carrément, vous lâchez, quoi.
Non, deux semaines. Oui. Attendez, l'autorité de sûreté nucléaire, ce qu'a dit hier, c'est j'ai terminé mes travaux et la procédure normale veut que je lance une consultation publique qui va durer 3 semaines, qui va nous amener au 17 avril et ensuite, je prendrai ma décision. Donc, on verra d'ici la fin avril quelle est la décision de la SN, mais voilà... Il restait 2 semaines de travail, ça fait 12 ans qu'on attend.
On n'ose pas vous demander un pronostic, est-ce que ce nouveau réacteur sera branché avant l'été sur le réseau ?
Oui, alors, bon, démarrer une centrale nucléaire, c'est pas comme démarrer une Clio ou une 208, oui. Hein, ça prend un peu plus de temps. Donc, ce qui normalement va se passer, c'est qu'on va charger le combustible, donc si tout se passe bien, après la consultation publique, donc d'ici la fin du mois d'avril, ensuite il y a quelques mois de montée en puissance, et ensuite la centrale tourne.
Donc elle sera branchée avant la fin de l'année ?
Ben, j'espère bien, en tout cas après 12 ans, je l'espère bien, mais surtout je voudrais peut-être voir le verre à moitié plein. On l'a attendu pendant longtemps, cet EPR il va tourner.
Il a coûté 4 fois plus cher que prévu,
13 milliards. Exactement, 4 fois plus cher, 4 fois plus longtemps. Mais, je dirais, on va apprendre de ces leçons, et on va pouvoir construire des EPR de nouvelle génération, des EPR dits 2, on va en construire 6, 3 fois 2, avec les leçons du passé, une capacité là encore à investir pour que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une électricité décarbonée et pas chère. On a un champion.
Voilà, vous êtes toujours sur Zoom Écologie sur le 106.3 FM sur Fréquence Paris Pluriel. On vient d'entendre donc un petit récapitulatif de c'est quoi l'EPR de Flamanville. À part un réacteur à eau pressurisée, c'est quand même d'abord et avant tout un chantier interminable qui dure donc depuis 2006. L'EPR avait été annoncé donc en 2005, autorisé en 2005. Et comme le dit si bien le ministre de l'Industrie qu'on vient d'entendre, il a coûté 4 fois plus cher et le chantier a duré 4 fois plus longtemps que ce qui était prévu. Mais on n'est pas à 2 semaines près, dit-il, et on a encore bon espoir d'empêcher le démarrage de l'EPR, puisque une fois que le combustible est mis et que la réaction nucléaire démarre, l'enjeu c'est que toute l'infrastructure devient une infrastructure nucléaire et polluée, alors qu'avant ça, il est encore possible de le démanteler facilement. On va donc écouter notre reportage tourné à la manifestation du 24 mars à Caen, qui réclamait précisément le non-démarrage de l'EPR. Et on va donc écouter ce petit son d'une manif sous la pluie avec 700-800 personnes et principalement des militants des grosses associations anti-nuc. On espère être beaucoup plus nombreux à la prochaine.
Bien, donc on est devant la préfecture de Caen avec Damien Renaud du réseau Sortir du Nucléaire pour essayer de comprendre un peu ce que signifie donc ce démarrage de l'EPR de Flamanville, qui est l'objet central de cette manifestation. Alors donc c'est quoi qu'ils appellent le démarrage de l'EPR ? C'est-à-dire quoi matériellement, c'est quoi démarrer un EPR ?
En fait, là ce qui se passe en ce moment, c'est que l'ASN elle est susceptible d'autoriser la mise en service, c'est le terme, mise en service de l'EPR Flamanville, et la mise en service, c'est le chargement du combustible dans le réacteur. Ce qu'on craint, c'est qu'en fait, une fois le réacteur chargé, en fait, il pourra être mis en fonctionnement et ça deviendra comment dire, des pièces qui sont radioactives, quoi, quelque part. Donc c'est plus du tout la même chose que de pas le démarrer du tout et de jamais le démarrer et de s'arrêter là, quoi. Ce qui a déjà eu lieu dans l'histoire, en fait. Il y a eu des réacteurs qui ont été construits et jamais mis en service, comme Zwentendorf en Autriche, suite à un référendum où d'ailleurs le nucléaire a été banni de la Constitution, c'est quand même intéressant. Ou la centrale de Lemoiz en Pays Basque Sud, donc en Espagne, où c'est le même cas, quoi, en fait. Voilà.
Est-ce que, donc là, pour l'instant, le combustible n'est pas encore chargé, c'est ça? Et l'objectif, c'est que sur ce mois de mars, ils annoncent qu'ils vont charger le combustible. Et donc, pour l'instant, s'ils le chargent, pour l'instant, il est juste chargé, mais pas encore activé. On pourrait dire quelque chose comme ça, en termes simples.
J'ai pas le détail. En tout cas, en fait, il y a une échéance administrative qui est au 10 avril, qui a déjà été repoussée plusieurs fois. C'était 10 avril 2017, puisque ça avait été pris, cette décision, en avril 2007, avant le premier tour de l'élection présidentielle, d'ailleurs. Et puis ça a été repoussé déjà deux fois, et là, ça les amènerait à repousser trois fois, une troisième fois. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il y a quand même des problèmes graves, quoi, de fonctionnement basique de ce réacteur, soit des malfaçons, soit de la conception. Et la conception, c'est ce qui ressort de l'expérience de Taishan en Chine. Et donc, c'est vraiment une folie de le démarrer, ce réacteur. Enfin, vaut mieux perdre 20 milliards que EDF perde 20 milliards plutôt que de causer une catastrophe, quoi. Et puis de continuer dans les déchets, les effluents. Voilà.
Ouais, c'est ça, en fait, je voulais te demander de préciser un peu, quand on dit la mise en service, ce serait dangereux et on a un retour d'expérience de Taishan, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Est-ce que cet EPR chinois, il fonctionne pas? Est-ce qu'il a eu un accident grave? Est-ce qu'il a eu un accident moins grave, mais qui laisse penser qu'il pourrait y avoir des pollutions radioactives? Enfin, je sais pas, est-ce que tu peux préciser un peu ce que ça veut dire?
Alors, en fait, sur un réacteur nucléaire, il y a trois barrières. La première, c'est la gaine du combustible. La deuxième, c'est le circuit primaire, la cuve. Et puis le troisième, c'est l'enceinte de confinement en béton. Et ce qui s'est passé à Taishan, c'est que les gaines de combustible, elles ont été endommagées par un défaut de conception de la circulation du fluide. C'est quand même une machine énorme, quoi.
Ouais, donc c'est pas un accident, c'est la conception même, ouais, du truc qui fait que ça fonctionne pas bien. Ouais.
Et du coup, il y a eu des fuites de radioactivité, des gaines de combustible vers le reste du circuit primaire, des gaz rares, et même EDF, à ces concentrations-là, aurait arrêté le réacteur plus tôt que ce qui a été fait là-bas, quoi. Okay.
Et ça, ces erreurs de conception, elles se retrouvent dans le PR actuel de Flamanville, c'est ça, parce qu'il est fait sur le même plan, c'est ça l'idée?
Oui, c'est la même chose, d'ailleurs. Ce qui est prévu, ce qui est envisagé, c'est que s'il démarre, faudra, au prochain arrêt, revoir une pièce qui est au fond et qui oriente le flux du circuit primaire pour pas avoir ces problèmes-là. Donc c'est vraiment du bricolage, quoi.
C'est ça aussi que je voulais te poser comme question en termes de démarrage et mise en fonctionnement. Est-ce que s'il le lance, il est quand même parti pour plusieurs années, voire une décennie? C'est quoi les échéances? Parce que, en tout cas, l'idée, alors que là, en tout cas, s'il est lancé, mais il va être immédiatement arrêté pour un ensemble de rénovations, c'est
ouais,
ça,
enfin... Immédiatement, c'est plutôt lors des arrêts pour rechargement de combustible qu'ils envisagent des choses, quoi. Mais c'est absurde. Enfin, il avait été envisagé de le démarrer il y a déjà plusieurs années, et puis de l'arrêter en 2024 quand le couvercle de remplacement serait prêt. Et là, on est en 2024 et il faudrait le démarrer et...
Ce serait le moment où on devrait
n'importe quoi. Enfin, ça, c'est absurde, quoi. Même dans enfin, je vais pas essayer d'expliquer la logique d'EDF et compagnie, mais même en suivant leur logique, c'est absurde, quoi. Vraiment.
Ouais, okay. Ouais. Du coup, par exemple, tu dis là, dans les pièces défectueuses, soit déjà défectueuses, soit qui posent problème ou qui poseraient problème, il y a notamment, alors on voit la soupape du pressuriseur, ce qui est jamais bon signe.
Oui, donc ça, ce sont des pièces qui, apparemment, présentent plusieurs dysfonctionnements, donc des non-fermetures ou ouvertures et des dépôts, qui sont survenus au cours des essais. Et les examens qui ont été menés ont révélé un endommagement par corrosion sous contrainte des clapets de remplissage. Donc c'est des pièces qui ont déjà une forme de corrosion, quoi.
Voilà. Alors qu'il n'est pas encore lancé, quoi.
Exactement. Ouais, tout à fait.
Et donc, ça, comme ça, il y en a plusieurs pages, quoi.
Eh ben oui, oui. Là, ce que j'ai sous les yeux, parce que je l'ai pas, j'ai pas tout en tête, c'est la réponse de l'association Global Chance à la consultation de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, sur la demande d'autorisation de mise en service du réacteur EPR de Flamanville, justement. Donc ça a été fait point par point et c'est retrouvable sur le site Global Chance.
Et c'est un document d'expert, en fait, c'est ça le...
Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est un document d'expert.
Et qui liste des dysfonctionnements, et là on se rend compte qu'avec ces quelques pages, en fait, on le lancerait avec des dysfonctionnements. C'est ça que ça veut dire,
oui,
en fait.
Oui, oui, en fait, il y a un commentaire, une conclusion sur chaque type de dysfonctionnement où souvent, il n'y a rien de probant sur le fait que ces dysfonctionnements soient réglés. Ouais, rien n'indique ça.
En fait, c'est assez terrifiant quand même.
Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. On devrait avoir quelque chose qui confine à l'excellence, qui doit être parfait sur le papier, qui est supposé tenir 60 ans, on se demande vraiment comment c'est possible. Voilà.
Et alors, peut-être justement, ça va peut-être avec ça, l'autre objet de la manifestation qui était le refus de la fusion de l'IRSN et de l'ASN. Et est-ce que justement, cette fusion de l'autorité et de l'expertise scientifique sur le nucléaire, elle est en lien avec ça? C'est-à-dire qu'en fait, cette incapacité à faire correctement du nucléaire.
Bien, en fait, ce qui a été voulu par l'exécutif et par EDF... c'est que en séparant l'expertise et puis la décision, enfin on dit le gendarme, mais bon, c'est un peu abusif quand même. C'est surtout que, en fait, jusqu'à aujourd'hui, avec la séparation des deux, l'expertise technique par l'IRSN, elle était publiée avant que l'ASN puisse examiner cette expertise et en tenir compte pour sa décision. Et donc, avec cette publication, le public avait accès à l'information. Aujourd'hui, le risque, c'est que cette information elle reste au sein de la nouvelle structure, là, qui c'est essentiellement l'ASN qui reprend la main, et que cette information soit diffusée soit après coup, soit que s'il y a la volonté. Et c'est ça le risque.
Après, c'est une question de transparence en bonne partie, en fait.
Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas penser que ce que fait l'IRSN est parfait. Il faut souvent lire entre les lignes. Il y a quand même une interprétation.
C'est quand même une langue d'expertise très particulière qu'il faut comprendre et qu'a effectivement ses sous-entendus, et que la conclusion, elle est rendue par les IRSN le plus souvent. Il y a un expert qui la comprend comme étant un risque ou pas, et c'est pas si évident. C'est rarement très explicite, en fait, c'est ça.
Faut interpréter, faut lire entre les lignes souvent, vraiment. Donc, et on se fait intoxiquer parfois. Mais,
et là, ce serait pire, en fait, c'est ça que tu dis.
Quoi. Clairement, c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien sur quoi se baser pour réinterpréter cette expertise.
Donc en fait, ça priverait, d'une certaine manière, d'une contre-expertise sur la base des informations publiées.
Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Oui, ça rend plus difficile la contre-expertise.
Et peut-être la dernière chose sur ce démarrage du chantier, enfin de l'EPR, fondamentalement, l'enjeu pour eux, c'est quoi de le démarrer là maintenant? Enfin, pourquoi est-ce que c'est maintenant et pas, comme tu dis, il a été repoussé une fois, deux fois, pourquoi pas le repousser une troisième fois? C'est quoi l'enjeu qui fait que là maintenant, il faut vraiment le charger et le démarrer? Pour eux,
Il faudrait leur demander, en fait. Moi, je crois qu'il y a vraiment l'échéance du 10 avril, il y a ce truc-là. Sinon, on voit pas trop, quoi. On bat des records d'exportation d'électricité parce que les gens ils sont mis à économiser, enfin, degré ou de force, j'en sais rien. Ça, il n'y a pas spécialement besoin, en fait, hein, vraiment.
C'est quoi l'objet? On clôture un chantier, enfin, il y a un truc un peu comme ça.
Ouais, se débarrasser peut-être du sujet, de l'avoir derrière soi, c'est peut-être ça. Mais c'est absurde, enfin franchement, moi je peux pas vous l'expliquer à leur place, quoi. Faudrait leur demander.
Très bien, merci.
De rien.
Alors on est avec Françoise qui vient d'un peu plus loin en Normandie. Donc tu fais partie du collectif anti-nuque Dieppe, c'est ça, et de Stop EPR.
Ni à Penly, ni ailleurs.
Et comme tu le disais tout à l'heure, dans la prise de parole, il y a ce projet d'EPR2 qui a été annoncé par Macron là, l'année dernière. Le site de Penly, où il existe déjà deux réacteurs ancienne génération, est pressenti pour accueillir un nouvel EPR. Mmh. Penly, c'est au bord de la mer, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique d'agrandir le site de la centrale de Penly pour y accueillir un probable EPR, enfin peut-être un nouvel EPR?
Alors déjà, lors de la construction dans les années 80, ils avaient prévu deux socles supplémentaires. Donc, ça a été l'un des arguments pour qu'en 2009, ils imaginent, parallèlement à Flamanville, qu'ils imaginent de poser un EPR sur l'un de ces deux socles supplémentaires. Or, il y a eu Fukushima en 2011. Il y a eu aussi des alliances au niveau politique en 2012 par rapport aux élections présidentielles pour capter les voix aussi des écologistes. Donc, on a échappé à cette première menace de PR. Mais ils remettent le couvert là depuis plusieurs années et ils ont prévu donc par pair. C'est-à-dire que le PR de Flamanville n'est pas encore démarré. On n'a aucun retour d'expérience pratiquement des EPR chinois. On sait juste que ça merde parce qu'il y a des vibrations bizarres qui abîment le combustible et ils ont été obligés d'arrêter à plusieurs reprises. Mais c'est rien du tout, c'est pas un problème. On décide de faire la relance, c'est-à-dire une paire à Penly, une paire à Gravine et une paire au Bugey.
Ah oui. Donc ça veut dire deux EPR d'un coup à chaque fois.
Voilà. Parce qu'on considère que c'est plus facile d'en faire deux en même temps que d'en faire un seul tout seul.
Comme mais... le prouve Flamanville, puisque ça fait que 19 ans que le chantier dure.
Voilà, on en aurait fait deux en même temps, il n'y aurait eu aucun problème. Voilà. Bon, donc nous on trouve ça... Ah, en plus, ils vont être obligés de dynamiter les deux socles, parce que ce n'est pas la même taille. Les deux socles qu'ils ont fait à Penly... en plus que les deux réacteurs, il y a deux socles. Deux socles-là, ils ne peuvent pas les employer.
C'est quoi qu'ils appellent des socles? C'est des dalles de béton qui sont prêtes à accueillir.
Voilà. Ouais. Oui, c'est des trucs énormes. Hein. Mais il va falloir qu'ils les dynamitent. Enfin, pas forcément exactement à côté, parce qu'il y a quand même deux réacteurs nucléaires à côté. Donc, voilà, on fait un peu gaffe quand même. Et donc, ils fonctionnent par pair. Mais comme a dit celui qui dirige Flamanville, il a dit « on apprend de nos erreurs ». Donc on est rassuré.
Et donc là, ce serait justement des EPR 2, mais alors ce serait quoi? Ce serait le même gabarit que le Flamanville. C'est quoi qui fait que d'après eux, cette fois-ci, ça marcherait?
Alors, ils considèrent qu'ils vont, ça c'est sûr, le faire beaucoup plus vite et beaucoup plus mieux, parce qu'il y aura, en fait, il y aura moins de sécurité. Il y a des enceintes qui vont manquer. Donc, ils vont avoir moins d'enceintes de sécurité, des barrières de sécurité d'abord. Et puis, ils considèrent aussi que la manière dont ils vont utiliser le contexte sera plus facile pour construire. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que cette construction, elle va d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre par terre un nombre incalculable de mètres cubes de falaises. Or, on est dans un relief karstique, c'est-à-dire c'est du gruyère, en fait, la falaise. Elle s'effondre, d'ailleurs, et donc ça va accentuer ce phénomène, d'une part. D'autre part, ils vont jeter tout ce qu'ils ont décollé de la falaise dans la mer. Donc, il y aura de la turbulence dans la mer, il y aura un certain nombre de perturbations pour la faune et la flore marine. Et puis, ils vont bouffer énormément de terres agricoles. C'est une terre qui est très riche dans la région. Ils ont acheté. Hein. Ils ont acheté les agriculteurs. Ils vont bétonner énormément. Bétonner, goudronner, parce qu'il faut faire des accès. Il faut faire des circulations pour les milliers de travailleurs qu'il y aura, pour les engins. Alors, il paraît qu'il y a des choses qui vont venir, des matériaux qui vont venir par la mer, j'imagine. Déjà, on est dans la Manche et il y a beaucoup de circulation. Ça va contribuer encore au désordre complet. En plus, il y a des parcs éoliens en mer qui vont se monter. Hein, donc, on arrête le saccage, quoi.
Ouais, et là, le projet, il en est où là ? C'est que il a été annoncé il y a un an maintenant. On imagine que le PR n'est pas. On en est encore dans les phases préliminaires. Mais on en est où donc de ce projet ?
Oui. Alors, ils ont parlé d'une accélération et d'une raison majeure pour accélérer la construction de ces EPR, si bien qu'ils ont le droit de commencer les travaux préparatoires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nucléaire, même si tout n'a pas été signé, même si tous les accords, les choses n'ont pas été votées complètement, mais ils ont le droit de commencer à bétonner, à faire des accès. Et ils ont, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'on s'aperçoit petit à petit que, après avoir rêvé énormément, les décideurs commencent à faire leur descente. Et là, ils commencent, je pense, à se rendre compte des problèmes. Parce que, par exemple, au niveau immobilier, ça ne va pas le faire du tout. Ils vont faire des habitations précaires. Pour des gens, ils ne savent pas quand ils vont arriver, pour combien de temps, à combien de personnes. Est-ce que ce sera des travailleurs indépendants, seuls, ou bien des familles ? Bon.
Oui, ça, c'est, pour le coup, c'est quelque chose dont il y a un vrai retour d'expérience à tirer du chantier de Flamanville, parce que ça fait presque 20 ans qu'il y a des gens qui travaillent, qu'il y a des ouvriers qui viennent de partout en Europe et qui vivent dans des campings, dans des conditions hyper précaires et tout. Donc, il y a un vrai retour d'expérience à faire là-dessus.
Ouais. Oui. Et nous, on a même été contactés il y a quelques années à propos de Flamanville, parce qu'on était un groupe antinucléaire et on avait des capacités de traduction au niveau polonais en particulier. Et il y a une juriste polonaise qui travaillait avec des travailleurs polonais qui étaient embauchés à Flamanville. Et c'était incroyable. Ils payaient deux fois des prestations sociales, par exemple. Ils étaient cloîtrés comme des prisonniers. Ils étaient vraiment fliqués. Ils n'avaient pas le droit. Au niveau sanitaire, c'était épouvantable.
Un
contrat, alors, qui était rédigé en grec. Ça passait par Malte. Par Chypre, oui, et en Irlande. Il y avait un circuit, mais
De société de sous-traitance, hein, c'est
voilà.
Ça
ouais. Oui, oui. Et puis, c'était vraiment mafieux comme fonctionnement. Ils ont été virés d'un jour à l'autre. Et c'est pour ça que l'avocate, elle venait, elle nous en parlait. Et c'était à l'époque où on parlait encore d'un EPR à Penly. Donc, c'était une manière pour elle de nous mettre vraiment... oui, oui.
Mais,
et c'est vraiment bien d'en parler parce que justement c'est souvent l'angle mort du nucléaire, c'est les travailleurs du nucléaire, notamment les travailleurs extrêmement précaires et déplacés du nucléaire dont on oublie qu'en fait c'est eux qui construisent les chantiers et qu'en fait ils sont extrêmement mal considérés, enfin c'est hallucinant.
Oui.
Et du coup là, donc il y a une phase peut-être de débat public qui va s'engager, qui est déjà engagé, qui est déjà fini, ou c'est alors qu'on sache un peu les possibilités de retour en arrière qui peuvent se donner ou qu'on peut leur imposer dans ce truc-là.
Alors, la marge de manœuvre qu'on a, pour l'instant, ils ont voté. Le débat public a eu lieu pour la totalité, hein, et il y a eu une enquête publique qui vient de se terminer sur les travaux préparatoires et sur la ligne THT qui va être rénovée, augmentée, etc. Bon, de toute façon, nous, on n'a aucune illusion. Quand on voit la manière dont même la fusion de l'IRSN et de l'ASN a été actée à une voix près, mais je veux dire, c'est quand même une garantie un peu de sécurité supplémentaire qui saute. Enfin, c'est épouvantable pour nous de se rendre compte. Non seulement ils en remettent une couche au niveau du nucléaire, mais ils enlèvent les garde-fous qu'on avait quand même un peu. Bon, les gens de l'ASN, ils font le mieux qu'ils peuvent. Ils essayent d'être le plus réglo possible. Mais bon, on sent qu'à certains moments, ils ont un peu besoin de notre parole de citoyen, qu'on les pousse un petit peu et qu'on montre qu'on a confiance en eux et qu'ils peuvent y aller, quoi. Mais en même temps, on sait très bien qu'ils ont une liberté très, très mesurée, quoi.
Donc, et pour vous, les échéances, un peu en termes de mobilisation, vous avez déjà lancé des dates, des rendez-vous ou...
Alors,
il y a déjà un collectif existant, en fait, déjà.
Alors, c'est compliqué parce que le territoire est gangréné par le nucléaire. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui y travaille. Ou alors, il faut tout réexpliquer. Il y a différents scénarios, on peut faire autrement. Il y a le scénario de Négawatt, il y a le scénario de l'ADEME, 4 scénarios de l'ADEME, il y a 6 scénarios de RTE. Et on peut faire autrement. Bon. Et puis, quand on parle aux gens et contracte, les gens nous disent, mais oui, ce que vous dites, la sobriété, mais on le fait, on a été élevés comme ça. On n'est pas des gaspilleurs, nous. Donc, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et moi, je pense que dans le secteur là-bas, à Penly, à Dieppe, encore ici, c'est une préfecture. Encore ici, il y a des étudiants. Encore ici, il y a des gens qui ont d'autres opportunités de travail. Mais à Dieppe, ils choisissent aussi les territoires qui sont en difficulté. Ils présentent ça comme le Graal, hein, comme une opportunité énorme, super. Donc, ben, les gens, ils demandent qu'à croire, quoi.
Ok. Merci.
Ben, merci bien.
Toujours dans la manif contre la relance de l'EPR, enfin contre le démarrage de l'EPR à Caen au mois de mars 2024. Et on est avec des habitants et habitantes de la Hague qui ont donc fait le trajet pour venir à la capitale régionale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qui se passe en ce moment du côté donc, de la Hague avec cette histoire de piscine de déchets nucléaires et ce qui vous a amené à venir aujourd'hui à cette manif?
Alors à la Hague, il y a un premier projet de piscine d'entreposage de déchets usagés qui avance tout doucement. On en est au stade de la DAC, qui est la demande de... C'est quoi la DAC, Stéphanie, déjà ?
La demande d'autorisation de construction.
De construction, qui devait tomber il y a 3 mois et qui n'est toujours pas arrivée. Donc, visiblement, ils sont déjà un peu en retard sur leur calendrier. Et pendant ce temps-là, la concertation continue, mais elle rassemble très peu de monde, elle est très peu suivie et très peu écoutée. Les citoyens sont pas du tout impliqués. Visiblement, les élus de la Hague, dont la maire Manuela Maillet, est pour le projet, en tout cas, elle ne se bouge pas du tout. Elle n'essaye pas du tout de lutter contre l'implantation. Et puis, on a eu la visite de monsieur le maire il y a 15 jours, Bruno, monsieur notre ministre de l'Industrie, qui nous a annoncé des grandes nouvelles, comme quoi nous allions... Le retraitement allait être prolongé, l'usine actuelle de retraitement allait être prolongée jusqu'en 2040, qu'ils allaient éventuellement en construire une deuxième et en plus une usine Mellox dans la Hague.
Ça, c'est du combustible.
Alors ça, c'est retraitement et fabrication du MOX.
Ouais,
okay. Voilà, donc ça, c'est un projet, mais bon, ça me paraît un peu vague parce qu'il est apparemment pas du tout financé, ils n'ont pas parlé d'argent. Donc, c'est, bon, on va voir. Mais en tout cas, Orano est très contente parce que Orano n'a pas eu les piscines puisque c'était EDF.
Ouais.
Mais là, ils ont des promesses de... Voilà, on en est là.
Et tout ça se passe donc à La Hague, à une vingtaine de kilomètres de Flamanville, où l'EPR est censé démarrer.
Voilà.
Et donc peut-être, est-ce que ça, Qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être dans ce coin, le coin le plus nucléarisé de France, et de voir cette EPR qui est sur le point de démarrer? Je ne sais pas ce que vous voulez en dire un mot. Ben, parce que depuis le temps que le chantier existe, est-ce qu'il est vraiment sur le point de démarrer?
C'est déjà mal barré là au niveau des délais. Visiblement, là, ils ont encore énormément de soucis. Là, il y a l'ASN qui a trouvé des malfaçons au niveau des sous-traitants. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Visiblement, la CLI de l'EPR n'a pas de réponse à toutes ces questions. Voilà, tout ça est bien vague et je crois qu'il y a un stress total là sur ces dates qui sont données pour le démarrage au printemps.
Parce que c'est ça, officiellement, ils commencent à mettre les barres de combustible là le mois prochain, non? C'est ça l'histoire?
Voilà, mais enfin bon, là ça commence visiblement, la presse commence à dire qu'ils vont avoir du mal à tenir les délais. Voilà, mais de toute façon, la presse nous dit depuis que le début du projet que voilà, c'est bon. L'usine va démarrer dans un mois, dans 6 mois. Et là, ça fait combien d'années qu'on attend? Enfin, c'est... Voilà, c'est
donc... Ça fait presque 20 ans, non?
Ça fait presque 20 ans. Et voilà. Mais bon, en fait, surtout, nous, on est là pour la manif. En fait, c'est parce que relance du nucléaire égale déchets nucléaires. Et aussi, voilà. Et en fait, c'est toutes ces choses dont on parle pas dans le nucléaire. Le nucléaire, c'est soi-disant preuve. Et puis, bon, voilà, on a entendu là tous les arguments qui tiennent évidemment la route. Nous, le collectif Top Piscine, c'est vrai qu'il lutte aussi contre l'accumulation de déchets, contre ces piscines, contre ce retraitement qui n'en est pas un, finalement, puisqu'on retraite 1% finalement des déchets.
Tout le reste reste des déchets stockés pour on ne sait pas combien de temps.
Ouais. Voilà, on nous fait croire à un cycle parfait. Et en fait, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas vraiment, en tout cas de manière industrielle, retraiter le MOX. Ouais. Voilà.
Effectivement, on en avait parlé dans une autre émission, donc on remettra le lien de cette émission en complément de celle-ci pour en savoir plus.
Et pour vous, pour vos perspectives et les dates un peu, s'il se passait quelque chose dans l'AC ces prochains temps?
Oui, alors il faut qu'on annonce là en fait le week-end du 13 et 14 avril. Ça va être un week-end thématique organisé par le collectif sur nucléaire et déni de démocratie. Donc sont invités Ange Potin qui vient de sortir un livre sur donc c'est le nucléaire imaginé, avec Martin Denoun, donc tous deux philosophes plus une sociologue, Lorraine Doudlet. Voilà, donc ça va être toute la journée du samedi. Ensuite, il va y avoir cantine, concert, etc. Et le lendemain, donc, le collectif organise un carnaval dans la Hague, à Vauville. Voilà, le carnaval. Et donc, cette fois-ci, à la plage.
Magnifique. Ben voilà, donc on invite les auditeurs et auditrices qui pourraient s'y rendre à retenir la date du 13 et 14 avril.
Voilà, c'est ça.
Merci bien.
Merci. Nucléaire, si, por supuesto.
Une dernière prise de parole ici, et puis après on ira au théâtre pour le concert. Prise de parole d'Étienne pour les soulèvements de la terre. Merci.
Il y a un an, à Sainte-Soline, l'État faisait tirer des milliers de grenades, des flashballs sur plus de 30 000 personnes venues s'opposer à la construction d'une méga-bassine. Une répression féroce, meurtrière. Il laissa 200 blessés graves et 2 personnes entre la vie et la mort plusieurs semaines. Pour protéger un trou, symbole de leur projet politique. Pour protéger l'agro-industrie et l'accaparement de ce qui est essentiel à la vie. Cette déchirure que constitue Sainte-Soline assume pour l'État la nouvelle donne de la répression. Nous pourrons être des dizaines de milliers. Ils pourront être seuls. Nous serons reçus par des balles. Nous devons garder ça à l'esprit alors que le retour des constructions nucléaires s'annonce. Des dizaines de projets sont ouverts. L'énergie nucléaire impose un gigantisme d'État assourdissant. Il impose une dévastation sans mesure des sols et du vivant. Et il l'impose pour des temps infinis. Pour s'y opposer, il serait vain de chercher à convaincre l'État qu'il a tort. Il serait vain de faire appel à sa considération de nos peines. Il faudra le contraindre à reculer. Nous devons affaiblir son arrogance meurtrière à chaque occasion. Les prochains rendez-vous des soulèvements de la Terre vous proposent de participer de ces occasions. Du 24 mai au 26, On se retrouvera à Gennevilliers pour empêcher l'extension du port. Les 8 et 9 juin à Castres. Il faudra réussir à définitivement en finir avec le projet d'autoroute A69. Du 15 au 21 juillet, dans le Poitou, se tiendra un village de l'eau. Nous prendrons le temps de nous retrouver, de discuter ensemble d'une politique des ressources qui soit émancipatrice. Nous serons des dizaines de milliers et il nous faudra montrer concrètement que la machine de mort de l'État ne nous touchera plus et que nous pouvons la faire tomber.
Sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM, c'est Zoom Écologie au son de Cyril qui reprend un morceau de Avia d'Ordreau. Et donc pour la deuxième moitié de cette émission, après avoir parlé de l'EPR de Flamanville et de la manifestation du 24 mars, on vous propose de réécouter une partie d'un entretien qu'on avait fait avec Fanny Lopez il y a à peu près un an et demi sur un autre aspect de la question des énergies et du nucléaire qui est la question des réseaux électriques. Alors pour rebondir un peu sur quelque chose que tu viens de mentionner, quand on parle des scénarios de transition énergétique de RTE et des grandes compagnies électriques, tout ça se discute. En fait, on a l'impression que ça se discute toujours entre les électriciens et le gouvernement, mais qu'en fait tout est toujours décidé par le haut et qu'il n'y a pas vraiment de débat. On pourrait dire démocratique, pour utiliser des gros mots, quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas d'instance collective de décision sur cette idée de transition énergétique, sur qu'est-ce qu'on fait des infrastructures qui existent déjà. On nous prévoit une augmentation énorme de la demande en électricité, ce que tu disais, ce qu'ils appellent la grande électrification des usages, c'est-à-dire qu'en fait, on veut essayer de continuer à faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui avec les énergies fossiles, mais en les remplaçant par l'électricité, en ayant des voitures électriques, des camions électriques, peut-être aussi des avions électriques, tout électrique, plus ce dont on vient de parler, le numérique et l'augmentation vertigineuse aussi des besoins en électricité du numérique, parce que stockage des données, parce que c'est une économie de flux, il faut que tout aille toujours très vite et que tout ça consomme énormément d'énergie. Et on est face à des scénarios et on est face à des décideurs qui font un peu les choses dans leur coin. Et on a, voilà. Toi, dans le livre, tu poses aussi cette nécessité-là de se mettre collectivement d'accord sur le projet technique et numérique. Comme tu as bien dit dans la première partie de l'émission, les réseaux, c'est pas neutre. C'est pas quelque chose qui a été de tout temps en tout lieu comme ça, qui n'est pas obligé d'être comme c'est en France, un réseau centralisé de très haute puissance, etc. Ça a été autrement, c'est différent dans d'autres contextes aussi. Et donc, voilà, je sais pas si tu veux revenir sur cette question de la décision politique et de à la fois telle qu'elle existe et de telle qu'elle pourrait être aussi si on arrivait à en faire quelque chose de plus intéressant.
Non, mais c'est intéressant aussi parce que sur les débats publics, on a l'impression que le débat est un peu confisqué. Alors c'est là ce qui revient,
puisqu'il a toujours été assez présent, j'ai l'impression que c'est nucléaire ou renouvelable. Alors là, tout le monde est capable de s'écharper. Enfin, ça, c'est toujours un gros sujet du débat public, ou en tout cas dans la presse mainstream, etc. Il y a ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on consomme et pourquoi la question de l'offre, ça l'est moins. Et là, il y a un débat qui commence à arriver un peu. On voit Jean-Marc Jancovici, là, qui est partout dans la presse, qui porte un peu, en tout cas, qui essaie d'imposer cette question de la sobriété, de la baisse des consommations, qui reste dans une vision qui est assez technocratique, productiviste, etc. Et ce qui est hallucinant dans ces débats-là, c'est qu'on parle toujours de production, enfin, on ne parle pas de la structure des réseaux, parce qu'il y a la structure, elle induit aussi un mode de production. On parle très rarement de la question du démantèlement. Enfin, là, on sait qu'on a la moitié des réacteurs qui sont à la trêve, on ne sait pas comment va passer l'hiver, on n'arrête pas de lire des trucs là-dessus, mais il n'y a absolument aucune planification sur la transformation de ces structures, qui sont des structures super vieillissantes, où les outils numériques, c'est des pansements, mais ça ne suffira pas à régler ces problèmes-là. Donc oui, des débats de fond sur la structure du réseau, et puis qui dit structure du réseau c'est toute la question de la décentralisation qu'il y a derrière. Puis on parlait tout à l'heure un peu rapidement du municipalisme, on pourrait dire du communalisme électrique. Enfin, il y a beaucoup de travaux ou de recherches sur les communs aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, les communs électriques, ça n'existe pas, puisqu'on peut certes produire, mais ensuite, les gens qui produisent comme Enercop, ils revendent l'électricité sur les réseaux, mais la structure reste la même. C'est Castoriadis qui avait dit dans une très belle formule, de toute façon, on s'en fout de savoir si on met du nucléaire, de l'éolien. Enfin, il y a les sources d'énergie, c'est une chose. Il y a l'énergie. Ensuite, c'est le réseau et la structure du réseau aussi qui compte. Donc ça, c'est un point super important. Et comme tu le disais, en effet, cette structure n'a pas toujours été la même. Et à la tête même d'EDF, et j'aime bien citer mon collègue Jean-François Mathieu Poupeau, qui a fait un très beau travail sur les années 1870-1900, au tout début de l'histoire de l'électricité, la façon dont les pouvoirs locaux, les communes avaient vraiment la main, enfin les régies communales, l'électricité c'était comme l'eau, enfin c'était un bien public organisé par les communes. Les communes disaient aux entreprises, ah ben en fait vous allez nous verser 40% de vos bénéfices, et avec ça on va construire des trucs qui vont servir à tout le monde. Il y a eu un renversement avec les techniciens, l'école des ponts et chaussées, les grands industriels, etc., qui à partir de 1905 ont complètement perdu la main, et l'État a eu vraiment le droit de venir et d'intervenir dans ces gestions-là. Donc c'est toute une manne financière aussi, parce que l'électricité c'est du fric qui a échappé aux communes, en plus du choix et des débats publics à ces échelles-là, qui sont un peu les échelles idéales, parce que tous les territoires ne consomment pas pareil. Alors après se pose la question de la solidarité territoriale, et en effet un territoire mal doté doit pouvoir avoir de l'électricité, c'est pour ça que parfois le réseau c'est pas si mal. Mais en tout cas, oui, il y a un débat qui est confisqué sur toute la question aussi de la décentralisation. Et je citais mon collègue François-Mathieu Poupeau parce que dans son bouquin aussi, il raconte qu'à la tête même d'EDF, au moment de sa création en 1946, en fait, il y avait des gens qui défendaient des visions très décentralisatrices avec des établissements publics de distribution où les départements, les communes auraient été super mobilisés. En Allemagne, c'est les Stadtwerke qui sont restés et qui sont encore assez présents d'un point de vue de la production, pas tant de la distribution, mais en tout cas la remunicipalisation électrique est possible différemment de la France, où la question du monopole se pose pas de la même façon. Donc oui, ces débats-là, ils n'existent pas, et d'ailleurs, c'est intéressant quand on écoute les scénarios RTE, c'est un débat qu'ils ne veulent absolument pas avoir. Enfin, on ne touche pas à la structure productiviste, il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que de toute façon, vous n'y connaissez rien, c'est très compliqué, c'est ce qu'on va nous dire, c'est ce qu'on va me dire.
Et donc, pour aussi revenir sur la question de la prise de décision et de comment on arrive ou pas à intervenir sur justement l'usage et sur la structure du réseau, il y a aussi un élément dont tu parles dans le bouquin qui est la libéralisation, enfin en tout cas le libéralisme et la fin des monopoles d'État. Sur l'électricité, où EDF a été découpé en plusieurs entreprises différentes, et en plus on assiste à une mise en concurrence des fournisseurs d'électricité qui aussi n'aide pas en fait à avoir une prise politique, puisque là c'est des logiques de marché et c'est des logiques de concurrence entre acteurs capitalistes dans lesquelles en fait ni en tant qu'usager ni en tant qu'habitant et habitante on a vraiment de mots à dire. Est-ce que tu peut revenir un petit peu sur cette évolution aussi dans le sens d'une mise en concurrence aussi entre acteurs capitalistes.
Oui, non, c'est intéressant parce que enfin, oui, la structuration des monopoles telle qu'on l'a connue avec tous les mouvements de nationalisation de l'entre-deux-guerres, enfin, qui étaient des visions, ça par ailleurs aussi, enfin, très centralisatrices, quoi. Enfin, on pourrait imaginer des monopoles, enfin, en tout cas un soutien État et public beaucoup plus décentralisé, comme je prenais l'exemple avec Poupeau, etc. Et puis oui, les lois de libéralisation des années 90 et puis fin, de 2000, etc., qui ont participé à fragmenter ce qui était considéré comme un édifice de service public qui garantissait une qualité d'usage pour le plus grand nombre, enfin tout cet imaginaire qui était associé aussi à des savoir-faire techniques. Enfin, on voit à quel point aujourd'hui la filière nucléaire et EDF même sont les premiers à être complètement catastrophés parce que toute la question de la maintenance gérée par des sociétés privées est une catastrophe. Donc ça, oui, ça c'est un gros... C'est une grosse question, et ce qui est aussi d'autant plus inquiétant aujourd'hui, c'est aussi que le numérique aussi se développe à un âge un peu post-service public. Enfin, aujourd'hui, on regarde toutes nos grandes infrastructures, en fait, il n'y a plus rien qui tient. Enfin, c'est absolument... Et il y a quelque chose de terrible aussi, c'est que tout ça a coûté de l'argent. Enfin, c'était des financements absolument énormes que les États aujourd'hui auraient probablement plus les moyens de faire reconstruire un réseau ferroviaire comme il était au début du XXe siècle, qui était magnifique dans toutes les campagnes, etc. Mais en fait, ça n'existe plus, le reconstruire. Enfin, réactiver ça. Alors ça, c'est possible et il faudrait le faire, bien entendu, mais il y a des investissements massifs qui ont été faits et c'est important de les mesurer aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être super étatiste et qu'il n'y a qu'un mode de planification hyper centralisé qui vaut, mais se dire qu'à un moment donné, il y a eu un patrimoine de services publics. Ça vaut aussi pour les télécoms. Orange, qui a vendu tout ce patrimoine historique de services publics à des hôtels de luxe, enfin des centres téléphoniques qui étaient construits. Ça aussi, c'est assez questionnant, donc enfin, voilà, pour gagner des parts de marché pour les actionnaires, etc. Ce réseau électrique aujourd'hui, alors on pourrait dire quand même, il faut dire qu'en France et en Europe, il n'a pas trop mal tenu. Enfin, si on compare à la situation aux États-Unis, le réseau électrique est complètement délabré. Pareil pour l'état des routes, énormément de départs de feu aux États-Unis sont dus à la très mauvaise maintenance des réseaux électriques. Donc on pourrait dire que malgré tout, en Europe et en France en particulier, il faut reconnaître que ça a été quand même assez bien entretenu parce que la libéralisation s'est faite sur les branches de la production et de la fourniture d'électricité, mais pas sur la structure réseau, transmission et distribution. Mais ça n'empêche que il y a quand même une capture du débat et on pourrait dire RTE, Enedis, ça reste des monopoles d'État, donc il pourrait y avoir d'autant plus facilement peut-être entre guillemets si c'était une décision politique qui prévalait de dire on va transformer cette structure du réseau, ça nous appartient encore un peu, mais bon.
Oui, et puis dans cette question de la monopolisation de la prise de décision, il n'y a pas que les acteurs capitalistes, on voit aussi que, c'est-à-dire là de ce qu'on vient de dire, EDF, RTE, etc., il y a aussi la volonté politique que tu as déjà un peu abordée. Et on voit que la volonté politique actuellement, elle n'est pas du tout dans le sens d'avoir un grand débat ou je sais pas, ou une remise en question un peu de la façon dont ce réseau électrique fonctionne, puisque tout se fait dans l'opacité. Et là, avec le Conseil de défense sur l'énergie qui a commencé à se réunir cette semaine, on voit bien qu'il y a, en tout cas, il n'y a pas de place pour qui que ce soit d'autre que le gouvernement. Enfin, je ne sais pas si, justement, à partir de tes travaux, tu as un truc à dire sur le Conseil de défense, mais...
Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, sur la question de la décision et la façon dont les acteurs se renvoient en permanence la décision, quand on discute avec les opérateurs réseau qui sont... des gens malgré tout passionnants parce qu'ils savent comment le réseau fonctionne, donc pour en apprendre sur la question technique, c'est passionnant de discuter avec eux. Bah, eux, ils disent, mais de toute façon, nous, évidemment, plein de choses sont possibles, mais c'est une décision politique parce que derrière, c'est des financements, enfin, c'est très compliqué, et puis il faut porter, en fait, c'est aussi un réseau, en fait, ça, je disais tout à l'heure, c'est un projet de société, enfin, c'est une vision, enfin, c'est des modes de consommation, enfin, c'est plein de choses associées, donc c'est pas juste on change la technique dans un coin, enfin, ça implique tellement de choses, d'autres formes de réseaux dont on pourra discuter tout à l'heure, que ça doit être porté politiquement. Et en effet, enfin, politiquement, il n'y a pas de transition. Il y a plein de gens qui ont montré que de toute façon, il n'y a pas de transition énergétique en France en particulier. Il y a juste de l'accumulation de sources d'énergie et donc on ne fait que multiplier les choses. Il y a, non, enfin, je pense que là-dessus, il n'y a absolument aucune volonté politique. Et puis, de toute façon, ces décisions ne sont pas partagées, elles sont confisquées. Et ça, pour le coup, c'est bien partagé, que ce soit entre les opérateurs historiques de réseau et le champ du politique, qui, n'importe qui s'intéresse à ces questions, va vous dire non, mais c'est très compliqué, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas fait Polytechnique, non, bah non, c'est pas possible. Enfin, alors qu'il y a quand même, alors évidemment, tout ça, c'est compliqué, je dévalue pas les avis et les savoirs de certains de mes amis à l'école des mines ou à Polytechnique, mais enfin, beaucoup de gens s'intéressent à la question énergétique, en fait. Et c'est ça qui est super paradoxal, parce que et on pourrait dire que aussi à des échelles communales, enfin c'est des savoirs qui sont super partagés, enfin il y a des volontés de construire des communs sur ces questions, enfin il y a des initiatives absolument formidables, et si oui on lâchait un peu de lest là-dessus, et si les structures s'ouvraient un peu, mais non, puisque ça renverse trop la table.
Et donc ça nous amène vers un peu la dernière partie du livre, qui est celle des possibilités d'autres choses, en fait, je crois que tu appelles ça des imaginaires, d'autres imaginaires électriques. Et donc, il y a, pour citer un peu les expressions que tu utilises, il y a bâtir des communs électriques, il y a reprendre les commandes de la méga machine. Mais alors, l'expression toute seule comme ça, elle paraît un peu grosse et un peu, voilà, un peu abstraite. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire voilà, de faire autrement et de repenser la structure du réseau? Et justement, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les milieux un peu écolo, on entend beaucoup parler de l'autonomie, de l'autoproduction, que l'autoproduction en renouvelable, ce serait une solution face justement à tout ce que tu mets en avant de dépossession de l'outil technique et d'imposition par le haut d'une technologie qu'on n'a pas choisie. Dans le sens avoir des panneaux solaires sur son toit, une éolienne dans son jardin, etc., ce qui serait une idée de l'autonomie énergétique. Et toi, tu ne places pas du tout ça comme un idéal. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant dans le sens où le fait de s'intéresser au réseau, au réseau dans son ensemble, en fait, ça sort aussi de l'opposition entre très petite échelle autonome, locale, etc., ou très grosse échelle imposée par le haut, et tu essayes d'ouvrir aussi des autres choses.
Oui, je pense que l'éventail, en effet, il est assez vaste. Enfin, la recherche d'autonomie énergétique, je pense qu'elle est... Enfin, qu'elle est super importante, mais qu'elle ne suffit pas. Enfin, la recherche d'autonomie électrique dans des zones rurales très peu denses, où en effet, on peut... alors, pas juste... installer des énergies de captage solaire qui soient passifs ou actifs. Enfin, après, derrière, il y a baissé les consommations à mort partout. Mais dans ces territoires-là, ça a du sens. Après, l'autonomie électrique en ville, c'est beaucoup plus compliqué. En termes d'échelle et d'économie d'échelle, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas partout. Mais en tout cas, ce n'est pas la solution. En gros, il ne suffit pas de partir dans les bois avec un panneau solaire ou un chauffe-eau solaire et puis de se dire on va manger des baies et on va s'en sortir. Ben non, en fait, il y a plein de gens qui habitent en ville. On est plein. Enfin, voilà, la solution hyper sécessionniste, je pense que ça fonctionne pour des collectifs, des groupes communautaires, dans des zones, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a une tendance un peu systématique à présenter ça comme une... Enfin voilà, la sécession comme une solution absolue. Or, c'est peut-être... un peu plus compliqué, mais je pense que c'est, enfin voilà, que moi j'ai fait ma thèse sur la question de l'autonomie énergétique, donc pour dire à quel point je trouve ça super intéressant. Et je pense que déjà une des premières solutions pour changer le réseau, enfin si on devait essayer de s'amuser, parce que moi c'est ce que je fais, hein, je m'amuse à dire comment on pourrait essayer de changer le réseau, bah, c'est déjà alléger les réseaux, c'est augmenter l'autonomie. Déjà, si on augmente l'autonomie partout où c'est possible, notamment avec du low-tech, parce que ça on n'en parle pas assez souvent, parce que tout le monde nous bassine avec le photovoltaïque, comme s'il n'y avait que le solaire actif qui permettait de baisser les consommations. C'est l'obsolescence des objets. Enfin, derrière, il y a plein de trucs, quoi. Mais augmenter l'autonomie, c'est plein de choses. Et déjà, si on augmente l'autonomie partout où c'est possible, notamment dans des tissus, pourquoi pas ruraux, périphériques, etc., déjà, les réseaux, ce n'est plus les mêmes parce qu'on les allège. Donc ça, c'est le premier point. Après, si je continue un peu sur les pistes d'ouverture ou de prospective, pour une certaine... par d'activité, on pourrait organiser des situations d'intermittence. Enfin, il y avait un projet au Canada qui s'appelait Follow the Wind, Follow the Sun. C'est vraiment suivre le vent et le soleil. Bon, en fait, si aujourd'hui il n'y a pas de vent, alors ça peut être du micro-éolien. Après, il ne s'agit pas de dire que c'est... Bref, mais en fait, oui, un complexe, je ne sais pas moi, de loisirs n'a pas forcément besoin de fonctionner 24 heures sur 24. À un moment donné, ben non, on ne peut pas vivre comme ça. Par contre, évidemment, pour les hôpitaux ou d'autres trucs... on ne peut pas organiser de l'intermittence, mais pour certains types d'activités, bah oui. Donc ça, je pense que c'est une solution qui n'est pas du tout exploré non plus, parce qu'on est habitué à voir tout, tout le temps, en permanence, mais que ça peut être une piste pour certaines activités. Après, l'hypothèse un peu redirectionniste, qui est de dire, alors c'est pas tant, alors, je sais pas si c'est prendre les commandes de la méga machine, parce que c'est... Mais en effet, il y a un réseau qui existe à très grande échelle, qui permet d'amener sur l'entièreté du territoire de l'électricité à des zones qui en sont plus ou moins dotées. Qu'est-ce qu'on enlève de ce réseau? Qu'est-ce qu'on garde? À un moment donné, on disait, bon, ben, en fait, on va garder l'hydroélectricité parce que c'est plus clean que le reste, ben, sauf qu'il n'y a plus d'eau, donc par endroit, ça devient aussi compliqué. Donc, en fait, on ne sait vraiment pas ce qu'on va garder de ce grand truc, mais quand même, il va falloir garder des choses parce que c'est là, c'est des matériaux qui ont été installés. Mais comment tout ça se reconfigure? Enfin, moi, je n'ai pas des solutions, mais je pense qu'en fait, on devrait travailler là-dessus parce que je pense que c'est vraiment des pistes qui sont importantes et dire, ben, peut-être que ce grand réseau, ben, en fait, c'est un filet de sûreté, c'est du backup et on augmente l'autonomie ailleurs, mais il y a toujours ce grand réseau, donc c'est inverser la hiérarchie historique du système électrique, c'est-à-dire que ça devient plutôt un système de secours. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui passent aussi par une stimulation des imaginaires se dire aussi c'est quoi les monuments énergétiques de demain. Ça veut dire être technocritique, c'est pas forcément être technophobe. Enfin, on pourrait imaginer des monuments passifs qui soient hyper sympas, hyper rigolos, je sais pas, les moulins, c'est sympa. Enfin, mais ce serait quoi, comment on arrive à déployer nos imaginaires sur des monuments peut-être un peu low-tech pour se dire que la critique de la technique, c'est pas juste couper, se déconnecter, et même s'il faut aussi faire ça.
Ouais, donc parmi les pistes que tu proposes, il y a effectivement l'idée d'avoir de nouveau plus d'acteurs publics, plus d'acteurs locaux aussi sur la production et le réseau électrique. Et c'est vrai que ça va complètement à l'inverse de tout ce qu'on entend actuellement. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on trouvait que c'était intéressant de t'entendre. Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Je voulais aussi juste souligner à quel point c'était chouette de lire quelque chose qui nous ramène vraiment sur qu'est-ce que c'est que le réseau et qu'est-ce qu'on met dedans, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi en lisant les scénarios de RTE qu'il y a vraiment l'idée de, on va mettre de l'éolienne, on va mettre du photovoltaïque, mais en fait tout va continuer comme avant. Et justement là, l'idée c'est comment on fait pour ne pas continuer comme avant et pas se laisser non plus entraîner par le poids de l'infrastructure et de se dire qu'on peut avoir prise là-dessus. Ben voilà, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette émission avec nous.
Et donc, Zoom Écologie, c'est fini pour aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait de notre émission avec Fanny Lopez que vous pouvez réécouter en intégralité sur notre site zoom-écologie.net. Je rappelle également, avant de céder la place à Musique Antille, que le prochain rendez-vous des luttes antinucléaires, ce sont les 13 et 14 avril dans la Manche avec le collectif Piscine Nucléaire Stop. Vous pouvez toujours trouver toutes les infos sur leur site et leurs réseaux sociaux. Piscine Nucléaire Stop, à jeudi prochain pour une prochaine émission de Zoom Écologie.
Belle comme une pioche qui déterre les tuyaux des méga-bassines, c'est Méga Radio, la radio éphémère et vénère des luttes du Marais Poitevin.
Alerte Terre. Alerte Météo Terre.
Alerte Météo Terre.
Bonjour, bonjour les hirondelles.
Alerte. Alerte météo.
Alerte.
Alerte météo. Terre. Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo terre.
L'émission pour garder les pieds par terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer et sur terre.
Petite histoire et grande question.
Alerte.
Alerte, météo terre. Alerte, météo terre. Ha, ha, ha. Alerte, météo terre.
Nous sommes partis au petit matin de notre petite ville de province charentaise. 10 000 étaient déjà présents sur un campement à la limite de la zone interdite par la préfecture et avaient réussi à accueillir la veille un grand convoi de tracteurs en déjouant la police. Première victoire. À la limite de la zone interdite, les tracteurs et les tentes, la cantine et les toilettes, l'infirmerie et la crèche, et les 3 200 forces de l'ordre sur tout le territoire. Tout est dressé. Nous nous sommes retrouvés à un rond-point, une trentaine de voitures remplies des uns et des autres, et une voiture de flic qui nous observait. La stratégie pour rejoindre le campement a été donnée, avec les consignes en cas de contrôle. Nous avons allumé les warnings, nous avons roulé en cortège sur la route, les forces de l'ordre quadrillaient le territoire. Nous avons évité les contrôles en prenant les petites routes, nous avons fait cortège roulant clignotant, furtif dans le territoire. Le printemps humide faisait briller les champs et les bourgeons, et les véhicules bleus des forces de l'ordre. Un autre convoi venant de La Rochelle s'était fait bloquer par les forces de l'ordre durant 2 heures et arrivera plus tard, par les petites routes. Clignotant dans le printemps, nous avons déjoué les contrôles. Autre victoire. Nous sommes arrivés près du camp et nous nous sommes garés à 20 minutes de marche, longue grappe de voitures le long des champs et tentes en ombre en cercle protégé par l'enceinte des tracteurs. Nous sommes arrivés sur le camp, avec tant d'autres, les pieds dans la boue collante, avec sac à dos,